L'oreille dans le coin.
L'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je suis à Longueuil-Sainte-Marie avec le maire de village, monsieur Stanislas Barthélémy. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, il fait beau aujourd'hui, enfin il neige.
C'est la première fois que vous intervenez sur notre antenne ?
Absolument.
On va faire connaissance avec vous dans un premier temps, un petit peu avec le village et la fonction de maire.
Avec grand plaisir.
Donc on est parti pour confession intime.
Yes.
Première question, monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditeurs ?
Voilà, je suis Stanislas Barthélémy, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, ados et début d'adultes. Je suis maire à temps plein et président de la communauté de communes de la Plaine des Traits.
Comment vous êtes venu maire de Longueuil-Sainte-Marie ?
C'est arrivé un peu par accident parce qu'en 2008, il n'y avait pas de candidat à reprendre la liste sortante et en fait, je me suis proposé et les pauvres, ils ont accepté. Donc, je me suis présenté à la tête de liste de l'équipe sortante et donc du coup, j'ai été immédiatement élu maire alors que je n'avais aucun mandat électif auparavant.
On va parler de votre métier précédent, mais vous étiez formateur dans une structure médico-sociale.
J'ai exercé à peu près une dizaine de métiers dans ma vie, éducateur, formateur, expertise comptable, directeur administratif et financier. Enfin voilà, donc j'ai été pas mal dans tout ce qui était comptabilité, mais aide à la création d'entreprises aussi. J'ai fait beaucoup de métiers différents, ça, j'ai toujours été passionné. J'ai passé quand même quelques années dans le milieu médico-social avec des personnes handicapées mentales. Ça a vraiment été quelque chose de structurant dans ma vie, vraiment, je leur dois énormément et j'ai beaucoup appris auprès d'eux, ce qui me permet peut-être de mieux vivre ma fonction de maire aujourd'hui.
Vous êtes originaire de où ?
Alors, le petit accent, pour voilà. Ceux qui l'auront reconnu, il est plutôt de Belgique. Mais mes parents sont lorrains et je fais partie des fils d'expatriés, puisque mon père était un eurocrate, un bien-aimé eurocrate. Donc, il était fonctionnaire européen au moment de la grande construction de l'Europe dans les années 60 jusqu'aux années 90. Il a fait partie des fondateurs de l'Europe.
Avant qu'on l'oublie, on va peut-être un petit peu présenter, j'ai dit le village tout à l'heure en introduction, mais ce n'est pas un village. Si, on est à moins de 2000 habitants à Longueuil-Sainte-Marie.
Alors, c'est peut-être la dernière année, mais nous sommes à moins de 2000 habitants, mais nous sommes à 1970. Effectivement, il y a une grosse croissance du village quand même au cours des 20 dernières années. Ça a été un choix politique de la municipalité précédente qui était d'essayer d'avoir des commerces en centre-bourg. Et donc, du coup, pour avoir des commerces, il fallait avoir de l'habitation. Donc, ça a vraiment été un choix politique au PLU de 2005. Du coup, nous avons géré toute cette croissance. Et maintenant, on se dit qu'on est bien et qu'on a vraiment envie d'intégrer tout le monde. Par boutade, je dis toujours, nous rouvrirons à l'urbanisation de jour où les gens se diront de nouveau bonjour à rentrer quand ils se croisent dans la rue et quand ils rentrent à la boulangerie. Il y a eu une vraie volonté de beaucoup d'habitants de se dire voilà, il faut qu'on retrouve cette envie de vivre en village, cette envie de se dire bonjour. Voilà, c'est juste ce bien-être ensemble.
Donc on parle un petit peu de Longueuil-Sainte-Marie, son architecture, ses commerces, ses associations. Je vous laisse présenter un peu votre village.
Alors, Longueuil-Sainte-Marie avait une réputation, je dirais, au milieu du XXe siècle. Les Longueuillois, on les appelait les orgueilleux. En fait, ils avaient un grand ferré donc, qui se trouve sur la place juste derrière moi. Donc, c'est un héros de la guerre de 100 ans qui a fait un acte de bravoure extraordinaire, mais qui a aussi transgressé pas mal de codes à l'époque, puisqu'il arrive à défendre une ferme fortifiée. C'est un paysan qui arrive à défendre une ferme fortifiée et qui arrive à faire prisonnier de quelques seigneurs anglais. Et en fait, plutôt que de se dire qu'en fait le seigneur anglais prisonnier, il va être libéré avec une grosse rançon, en fait, il tue le prisonnier. Un paysan qui tue un noble à l'époque, ça, c'est un peu compliqué. Mais ça va devenir un peu un mythe quand même, puisque en fait, après avoir tué ce prisonnier-là, il va boire de l'eau parce qu'il avait un petit peu soif et en fait, il meurt le lendemain. Pour ceux qui sont un peu anciens, ils se souviennent de leur cours au collège où il y avait dans les deux grands mythes qu'on étudiait sur le Moyen-Âge, il y avait Jeanne d'Arc, il y avait Jeanne Hachette et puis il y avait le Grand Ferré. Nous sommes juste à la limite du pays de Valois puisque on est du mauvais côté de l'Oise. Par rapport aux Valois, nous sommes dans un pays de transition entre tous les marécages, donc tout le fond de vallée. En fait, à l'époque de nouveau du Moyen-Âge, il y avait la route royale qui passait de Verberie à Compiègne et qui allait à Senlis. Et en fait, les brigands profitaient des marécages pour en fait passer discrètement, faire leur rapine sur la voie royale et puis disparaître dans les marais. Donc ça, c'est vraiment tout le fond de la vallée. Puis après, on commence à monter sur le plateau Picard. Et donc, effectivement, là, on commence à s'éloigner. On commence à avoir des belles terres agricoles. Le village lui-même est donc plutôt sur le début du plateau. Sur le fond de vallée, il y a eu plusieurs grands travaux qui ont permis de développer ce fond de vallée. Il y a d'abord eu la canalisation de l'Oise. C'était au 19e siècle. Et puis après, donc ça a beaucoup assaini des terres. Après, du coup, on a pu faire des gravières. Et donc, il y a eu toutes les exploitations de gravières. Donc, nous avons beaucoup d'étangs. Je dis que sur la commune, il y a 100 km de rivage entre l'eau et la terre, parce qu'avec tous les étangs qui tournent en rond, les petites îles, etc., on a plus de 100 km. Donc énormément d'étangs de pêche, mais d'activités de loisirs, de jet ski et de planche à voile. Et puis après, nous avons, sur des terres qui ont été remblayées, toute une zone d'activité qui s'est développée, la zone d'activité paris-oise. Et puis après, on a juste à côté de l'église un beau château et qui a suivi à peu près la même rénovation que celle du château de Pierrefonds, c'est-à-dire une création finalement de la fin du 19e, début du 20e. Nous sommes un petit village un peu à l'écart des routes principales. Les gens restent en général sur la départementale 200, sur l'autoroute 1, sur la nationale 31. Et finalement, il faut vouloir venir chez nous. Et quand ils viennent chez nous, ils disent toujours... Waouh, c'est très très beau.
Dans le village, vous avez une dizaine d'associations ?
On a une dizaine d'associations, dont Famille Rurale, qui regroupe elle-même pas loin d'une dizaine d'activités. Donc effectivement, on tourne plutôt autour de 15-20 activités. Nous faisons partie des villages, et c'est ce qui fait la richesse de chacun des villages, quel qu'il soit, c'est la richesse des associations. Les hommes politiques ne sont rien, et même les employés municipaux ne sont rien s'il n'y a pas des associations qui font vivre le lien social. C'est la force de la France, c'est d'avoir autant d'associations. Du lien social, c'est ce qui fait le plaisir d'être ensemble, c'est de se retrouver, c'est de monter un projet, c'est de créer quelque chose. Et ça, c'est vraiment la première chose que font tous les politiques, c'est quand même foncièrement d'aider les associations, même si de temps en temps, il peut y avoir des tensions personnelles entre des élus et des présidents d'associations.
En 2017, il est peut-être le temps de faire un petit bilan de votre premier mandat et de celui en cours. Ça fait 9 ans que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous avez offert ? Quels sont les projets que vous avez mis en place depuis votre élection, monsieur ?
Je dirais avant toute chose, et si je fais un premier bilan, mon premier bilan est toujours d'abord un grand remerciement. Un remerciement aux habitants de Longueuil-Sainte-Marie. Un, d'avoir fait confiance à un étranger, puisque j'étais là depuis 10 ans sur les villages seulement, et de m'avoir élu et de m'avoir eu donné la chance de pouvoir vivre cette expérience. C'était une expérience exceptionnelle que d'être maire, parce que nous rencontrons toujours des gens passionnés. Quand vous avez quelqu'un qui vous rencontre, c'est un président d'association qui vient vous voir, c'est un industriel, c'est un pompier, ils vont tous vous parler de leur métier, de leur passion. Et puis, de temps en temps, alors je l'accorde, on a le passionné de voisinage. D'accord ? Celui qui est tellement passionné qu'en fait, il vient vous parler de son voisin. C'est un peu moins intéressant, c'est un peu moins passionnant, mais c'est toujours une passion. Et je trouve qu'on s'enrichit énormément de toutes ces passions. Et quand je fais un bilan, je remercie toujours les électeurs de m'avoir donné cette chance. Après, si moi je fais un bilan, c'est nous avons énormément acté l'action sur le développement économique, puisqu'en fait, nous avons repris l'aménagement de la zone paris-oise, qui était avant un aménageur privé. Nous avons décidé de le reprendre en aménagement municipal. C'était très compliqué. Ça nous a permis effectivement d'accueillir la société Enercon. Et puis, de réaménager toute la partie est de la zone qui n'était pas encore faite. L'important, c'était de développer l'emploi. Alors, quand je dis développer l'emploi, c'est toujours pour un territoire, c'est jamais pour une commune. Quand vous créez une usine comme Enercon, qui maintenant fait plus de 100 emplois, vous avez au maximum 2 ou 3 habitants de Longueuil-Sainte-Marie. Parce qu'il faut des compétences, il faut parfois parler allemand ou anglais, ou bien il faut des compétences spécifiques. Et c'est vraiment la force d'un territoire, c'est de pouvoir développer de l'emploi pour tous les autres, parce que du coup, à l'inverse, peut-être qu'un sous-traitant qui est à 20 km d'ici, en fait, va embaucher quelqu'un de Longueuil-Sainte-Marie sur cette compétence-là. Donc ça, c'est vraiment tout le développement économique qui nous a permis effectivement d'asseoir des recettes fiscales complémentaires pour la commune. Et effectivement, nous avons repris l'ensemble des réseaux. L'équipe précédente avait commencé à faire tout le sud du village. Là, on a fait tout le centre. Et cette année-ci, en fait, nous commençons toute la partie nord du village. Normalement, d'ici la fin du mandat ou le début du mandat suivant, on aura refait l'ensemble des routes pour que tout le monde ait des routes correctes. Le principal investissement, en tout cas en matière de route, a vraiment été de reprendre tout, par priorité les chemins. Il y avait resté encore une rue du Fayel qui était presque un chemin le long d'un champ, et elle a été requalifiée en totalité. Ça, c'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que nous avons mené une politique en matière d'immobilier qui était vraiment importante. Nous avons repris l'ensemble des bâtiments. Alors, souvent par petites touches, et puis en fait, après, on s'est retrouvé dans des enjeux importants. Nous avions un centre de village juste à côté de l'église, une salle qui s'appelle la salle Pierre-Coé. À l'origine, on y faisait les repas des anciens, etc. Et donc, en fait, on a remis tout le bâtiment aux normes. Enfin, en tout cas, cette salle-là, elle a complètement été désossée. On l'a refaite pour 80 ans. Nous avons beaucoup de patrimoine dans d'autres communes qui sont un peu anciens, qui ont été achetés à l'époque. Et en fait, il faut arriver à ce patrimoine. On est dans une démarche assez dynamique de se dire, ben, on va vendre des bâtiments, on va en reconstruire d'autres parce que ça ne sert à rien. Je ne peux plus répondre à mon besoin en tant que municipalité avec le rachat d'une vieille maison, aussi belle soit-elle, c'est plus à nous de porter parce que par définition, je n'en utiliserai que le rez-de-chaussée ou bien il faut que je mette un ascenseur et que je me paye un ascenseur avec les coûts de maintenance annuels pour occuper le premier, ça ne sera pas fonctionnel, finalement ça ne correspond plus aux besoins. Et en fait, nous avons donc décidé que globalement, on allait, sur le prochain mandat sans doute, arriver à continuer cette politique-là, mais se dessaisir de quelques biens pour en fait faire des choses qui sont sur un rez-de-chaussée, avec un beau parking, très accessible et très fonctionnel. Et nous avons la chance sur notre secteur, mais c'est l'ensemble du Compiègnois et du Valois qui se retrouve dans un secteur où tout l'immobilier ancien, les particuliers sont très intéressés. Donc en fait, il y a une vraie valeur marchande à revendre des biens auprès de particuliers pour qu'ils y habitent. Et nous, à l'inverse, on a vraiment intérêt à retrouver des équipements qui tiennent la route.
Durant votre mandat, vous avez aussi développé le port fluvial.
C'est vrai. Alors, le port fluvial a été un projet qui, lui, a été porté plutôt par la communauté de communes. Il réunit effectivement l'agglomération de Compiègne et le département. Les trois partenaires ont donc conçu ce port fluvial. On va casser un mythe, un port, il n'y a rien de pire en matière d'emploi et de taxes. C'est-à-dire qu'il y a sur 30 hectares, on a 15 emplois sur commande d'installation, c'est plat, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de taxes. Donc ça ne crée aucune richesse en soi. Par contre, ce qui est très très fort avec un port, c'est qu'autour du port, se crée énormément de richesse. Parce que là, les gens se disent, ben, finalement, je viens m'installer à côté et là, j'ai la possibilité rapidement de pouvoir exporter sans trop de coûts. Et si je m'installe juste à côté, en fait, je vais pouvoir exporter et ça va partir en Chine avec des coûts de manutention qui sont dérisoires. Et à l'inverse, je m'installe à côté du port parce que tout d'un coup, je peux récupérer mon bien qui vient de Chine, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Et du coup, je peux immédiatement l'exploiter, le reprendre sans avoir trop de coûts de transport et de logistique de notre secteur. Alors notre secteur, il a la chance d'être au nord de Paris. Mmh. Nous avons 15 millions d'habitants au sud et finalement, ben, on peut se dire qu'il y a un quart des besoins de la région parisienne qui passent par notre territoire. Et l'idée était d'offrir justement à l'ensemble des gens qui consomment sur la région parisienne la possibilité de passer par ce territoire-là. Donc le port a été inauguré il y a maintenant 3 ans et il est en exploitation, il monte en puissance régulièrement. Il bénéficiera évidemment en 2023 de l'arrivée de Seine-Nord.
Monsieur Barthélémy, c'était très agréable de faire connaissance avec vous et avec le village. Dernier mot à nos auditeurs.
Je veux juste dire qu'effectivement, nous avons deux territoires. Enfin, quand je parle à l'ensemble des auditeurs du Valois et du Mulhacien, c'est qu'effectivement, nous sommes vraiment ce territoire qui est finalement assez comparable avec un passé historique évidemment qui ne vaut pas le vôtre. Et ce deuxième aspect qui est que nous sommes des territoires qui sont à la limite de cette région parisienne avec les avantages et les inconvénients. Nous avons vraiment finalement un territoire assez comparable. Les problématiques sont assez semblables. Quand je rencontre le président du pays de Valois, c'est vraiment à peu près les mêmes problématiques. Et je trouve que nous avons vraiment une richesse et une qualité de vie qui est exceptionnelle. Je suis très très fier d'être Picard et d'être dans ce pays, moi qui ai beaucoup, beaucoup voyagé. Nous avons un territoire qui est très riche, riche de ses habitants, riche de ses nombreuses associations, de sa vie culturelle et de sa nature, de sa vie et de sa vitalité économique. On demande toujours aux gens qui viennent dans notre coin, pourquoi est-ce que vous venez vous enterrer ici? Vous êtes complètement cinglés. Et les gens, finalement, commencent à me répondre, non, mais vous avez un territoire exceptionnel. Et ils m'ont aidé à prendre conscience combien nous avons la chance d'être sur ce territoire-là. C'est vraiment un territoire fabuleux.
Merci à vous, monsieur. C'était Yann. J'étais donc aujourd'hui à Longueuil-Sainte-Marie pour faire connaissance avec le maire du village, monsieur Stanislas Barthélémy. À très vite sur l'antenne d'RVM. Au revoir.
C'était L'oreille dans le coin. oreille, oreille dans le coin.